Chapitre 59. Pause, temps mort. J'ai besoin de faire le point. Je dois absolument retrouver la maîtrise de mon mental, sinon je vais finir chez les fondus. Ça ne serait pas original pour quelqu'un dont le cerveau est un gruyère. Après cette épouvantable soirée, je suis rentrée chez moi. Je m'y suis traînée, devrais-je plutôt dire. Je n'ai même pas voulu me confier à Cubix. Je veux qu'elle reste innocente, préservée des trahisons de ce monde. Je ne lui ai pas non plus raconté que les vigiles sont intervenus, même si je suis assez fière qu'ils aient eu besoin de se mettre à quatre costauds pour me décrocher de la vieille qui beuglait. Dans la bagarre, personne ne sait ce qu'est devenu sa boule de cristal. Moi, si. C'est mon secret, et je l'emporterai dans la tombe. Épuisée, la tête en vrac, je me suis laissée tomber dans mon canapé. J'ai machinalement allumé la télé. Bêtement, j'espérais me détendre en regardant d'autres gens se débattre dans des histoires de crimes non résolus, d'urgence à l'hôpital, d'imbroglios sentimentaux ou d'échecs familiaux. Il est étrange de constater devant quoi on se change les idées. Les ennuis des autres seraient-ils un spectacle plaisant? Nous aide-t-il à relativiser nos propres malheurs? Pourtant, ce soir, la trépidante analyse du cornet de glace tenu par le tueur en série n'a pas réussi à me distraire. J'ai fini par ne plus vraiment regarder l'épisode. Cependant, sous l'impulsion de ces images animées et sonores qui envahissaient mon cortex malgré moi, j'ai été saisie d'une véritable illumination. J'ai vu la lumière. J'ai soudain touché du doigt une vérité fondamentale qui va modifier ma vision du monde pour toujours. Une règle. Un paramètre que je ne soupçonnais pas avant de le découvrir et dont je ne pourrai plus jamais faire abstraction, maintenant que j'en ai connaissance. Je suis passée d'un seul coup de l'avant à l'après. Depuis notre plus jeune âge, on entend des histoires, on voit des films, on lit des livres. Cela commence dès qu'on est bébé, le soir avant de nous endormir, et ça ne s'arrête plus jamais. J'adorais ça. Comme vous, sans doute, on m'a biberonné aux rêves, aux contes, aux récits fabuleux qui enflamment l'imagination. Impossible de trouver le sommeil sans, ni après d'ailleurs, et même encore aujourd'hui, je me sens très mal si j'en suis privée. Plus personne ne me raconte d'histoire quand je me glisse sous la couette, alors je me débrouille. Des bouquins sur la table de nuit, des chansons dans le téléphone, des films plein la boîte à images. Les fictions sont partout autour de moi, comme des médicaments qui traînent pour me soigner de la réalité. On est tous accros à ces doses. Ces récits nous tiennent, nous portent, et contribuent accessoirement à forger la perception que l'on se fabrique de notre passage sur Terre. On passe tellement de temps en leur compagnie que notre cerveau ne fait plus toujours la différence entre ces artifices et la réalité. Ils se glissent, s'immiscent dans notre mémoire. Au point qu'on intègre les sentiments qu'ils provoquent comme nos propres expériences. Notre conscience de la condition humaine et de notre destin potentiel se dessine ainsi, à coups de fables, de récits emblématiques, de situations stéréotypées qui imprègnent notre univers psychique et finissent même par orienter nos espoirs. Notre imaginaire, enrichi à l'extrême par ces visions aiguës, souffle à notre esprit que tout serait vachement mieux si on pouvait obtenir la même chose que ce que l'on a lu, entendu ou vu en cinémascope. Pourquoi se contenter de moins bien? C'est ainsi que l'on devient assoiffé d'une vie en plus fort. On apprend à croire à l'amour, à la justice qui triomphe, à la belle surprise qui changera notre existence. On se retrouve alors affublé d'une idée assez précise de ce que doivent être les grands moments de notre parcours. Un jour, on sera grande et on aura des seins. Plus tard, on aura des diplômes, un métier. Un beau jour, un garçon nous embrassera. Il nous dira qu'on est la seule à lui faire cet effet-là. Tout sera différent. On sera les premiers à aller au cinéma en se tenant la main comme ça. Le coucher de soleil ne sera jamais aussi sublime que pour nous. Nous vivrons des nuits brûlantes, s'achevant sur des aubes épuisées et douces. On rencontrera le grand amour, comme la fille dans le film qui n'y croyait pas. On aura des enfants, Peut-être une maison avec un jardin. Pourquoi pas un château? Mais de toute façon, un écrin pour abriter notre bonheur. On les connaît, ces étapes. On les a toutes vécues dans d'innombrables histoires avant d'en rêver légitimement pour nous-mêmes. Le plus grave, c'est qu'on finit par les attendre. On finit même par ne faire plus que ça. Les espoirs deviennent des cases à cocher. Nos aspirations se cristallisent sur des archétypes que l'on nous vend. Ce ne sont plus de beaux moments qui surgissent au détour d'un destin. Ce sont des portes à passer dans le slalom géant qu'est une vie de plus en plus stéréotypée. À la Saint-Valentin, obligation d'aller tuer des fleurs pour les offrir à sa femelle. Gare à celui qui oublie. À la Saint-Sylvestre, juste avant minuit, décompter obligatoirement en hurlant sa joie, alors que le lendemain tout sera pareil. La veille du mariage, faire n'importe quoi comme les garçons. Et surtout, continuer à regarder ce que tous les autres regardent, pour suivre la voie dessinée sans tenter d'en sortir. Une vie rythmée par des clichés scénarisés, au risque de ne plus avoir l'ouverture d'esprit pour vivre ce qui ne figure pas sur le bon de commande. Ne consommer que des bonheurs d'élevage clonés en captivité. On s'attend à vivre toutes ces choses magnifiques, sur une musique déjà vendue à des millions d'exemplaires si possible. On y a tous droit. Les plus beaux jours d'une vie, l'homme d'une vie, les buts d'une vie. Mais est-ce vraiment notre vie ? Comme des phares illuminant nos nuits emplies de doutes, ces rendez-vous très théoriques éclairent notre chemin et nous guident. Ils nous attirent, nous motivent, nous tiennent. Ils peuvent aussi nous détruire si nous ne les atteignons pas. Plus de place pour les bonheurs sauvages, ceux qui nous obligent à nous lever tôt pour avoir une chance de les attraper, ceux pour qui nous devons garder les capteurs optiques affûtés et le cœur ouvert sous peine de les manquer. Tous à suivre le même chemin rassurant, balisé chacun son tour. La même limousine vulgaire à rallonge pour le mariage. Le même sac à la mode. Les mêmes recettes tendances. Et tant qu'à faire, les mêmes angoisses, nées de ces espoirs programmés qui ne comblent jamais nos vraies aspirations. Car on ne vit pas en faisant semblant. Là, devant ma télé, je prends soudain conscience qu'une extraordinaire tradition de narration, destinée à transmettre de l'émotion, a peu à peu dérivé en une redoutable machine industrielle à structurer l'imaginaire. Avec tout ce que cela implique de frustration. On est toujours déçu de ce qui se passe dans notre quotidien, parce qu'on a moins de moyens que la production qui nous a vendu le scénario. Pire, on ne peut rien couper au montage. Dans ce schéma-là, comme aux Jeux Olympiques, si on rate un passage obligé, on est disqualifié, on part dans le décor. Bizarre de ne pas avoir d'enfant à ton âge. Quasiment suspect de vivre seul. Tout espoir n'est pourtant pas perdu. Je ne compte plus les exemples qui permettent malgré tout d'y croire. Dans ma famille, chez mes amis, beaucoup ont loupé les passages, foiré le slalom, valsé dans le décor, et découvert du coup des pistes insoupçonnées qui conduisent à des vallées plus vertes. Parce qu'en fait, malgré tout ce que l'on peut nous raconter ou nous vendre, ce ne sont jamais ces grandes étapes attendues qui façonnent notre vie. Au-delà des images toutes faites, ce sont toujours des rencontres imprévues, des irruptions de chance ou de guigne qui tracent nos destins. La vérité est bien plus rafraîchissante que le modèle de vie surgelé que l'on nous propose. Quoi qu'en disent les voyantes et les séries, on ignore tous la date de nos vrais rendez-vous. Le pire et le meilleur n'arrivent jamais là où on les attend. Ça fait un peu peur, mais ça fait drôlement envie. On m'a menti, on m'a abusé, on m'a parlé dans le noir. Mais ce soir, je m'aperçois que si je n'attends plus rien, tout devient possible. Le policier de la télé vient de comprendre qui a tué la fille. Super ! Il va pouvoir aller manger à la cantine du studio avec l'assassin. J'ai lu dans un magazine que les deux comédiens étaient en couple et qu'ils allaient adopter. Je suis contente pour eux. C'est encore la fille qui, en plus d'avoir été assassinée, va rester toute seule